Chapitre 22. Lorraine Sérénac gare sa moto sur la place de la mairie, sous un tilleul. Cette fois-ci, il n'a rien laissé au hasard. Il a programmé son arrivée devant l'école quelques minutes après la sortie des classes. Il a d'ailleurs croisé plusieurs enfants rue Claude Monet, admiratifs devant sa Tiger Triumph T100. Pour les gosses, il s'agit presque d'une pièce de collection. Stéphanie lui tourne le dos. Elle classe des dessins d'enfants dans une grande pochette cartonnée. Il a décidé de parler le premier. C'est, pense-t-il, la meilleure façon de ne pas bafouiller. Avant qu'elle se retourne, avant qu'elle ne pose sur lui le paysage infini de son regard. Bonjour Stéphanie. Je reviens comme promis pour la liste des enfants. L'institutrice tend une douce main couronnée d'un sourire sincère. Le sourire d'un détenu appelé au parloir, pense Sérénac, sans savoir pourquoi cette image lui vient. « Bonjour, inspecteur. Je vous ai tout préparé. Tout est là, dans l'enveloppe sur le bureau. »« Merci. Je vais vous avouer, j'ai un adjoint qui croit dur comme fer à cette piste à cause de cette carte postale d'anniversaire retrouvée dans la poche de Jérôme Morval. »«
Pas vous ?»«
Je ne sais pas. Vous êtes mieux placé que moi. » Pour tout vous dire, je crois que mon adjoint a échafaudé l'hypothèse que Jérôme Morval aurait pu avoir un enfant illégitime il y a une dizaine d'années. Vous voyez le genre.
Rien que ça.
Ça ne vous semble pas crédible? Parmi tous vos petits écoliers, vous n'en avez pas un qui pourrait posséder un tel profil?
Stéphanie glisse ses doigts vers l'enveloppe blanche, la colle contre la poitrine de l'inspecteur. Ça. C'est votre travail de fouiller dans la vie intime de mes petits loups, pas le mien. Sérénac n'insiste pas. Il observe la classe tout en faisant semblant de chercher ses mots. En réalité, l'inspecteur sait parfaitement ce qu'il va dire ensuite. Il a tourné et retourné sa formule dans sa tête pendant toute la route de Vernon à Giverny, comme un vieux chewing-gum. Ses yeux se posent sur les couleurs pastels de l'affiche du concours, peintre en herbe International Young Painters Challenge. Il remarque que la Fondation Robinson est également mentionnée sur une autre affiche accrochée dans la classe, qui vante en anglais l'intérêt de la National Gallery de Cardiff, sur fond de paysages de landes peints par Sisley. Après ce silence calculé, Sérénac se lance.
Stéphanie, vous connaissez bien le village?
J'y suis née.
Je cherche un guide. Comment vous dire, j'ai besoin de sentir Giverny, de comprendre. Je crois que je ne pourrai avancer qu'ainsi dans cette enquête.
Observer et imaginer, comme les peintres?
Exactement.
Il se sourit.
Ok, je suis à vous. J'enfile quelque chose et j'arrive.
Stéphanie Dupin a posé une veste de laine sur sa robe jaune paille. Tout en discutant, il longe la rue Claude Monet. Descendent celle des grands jardins, tournent vers la rue du Milieu pour franchir à nouveau le ruisseau, de l'autre côté du chemin du Roi, juste devant le moulin des Chenevières. Stéphanie a promené des centaines de fois les enfants de sa classe dans les rues de Giverny. Elle en connaît toutes les anecdotes et les fait partager à l'inspecteur. Elle lui explique que chaque coin de rue de ce village, presque chaque maison, chaque arbre aussi, est conservé et admiré quelque part à l'autre bout de la planète, dans un musée prestigieux, encadré et verni. Peinture d'origine contrôlée. From Giverny, near Giverny, Normandie.
Ici, précise Stéphanie dans un sourire un peu étrange, ce sont les pierres et les fleurs qui voyagent, pas les habitants.
Ils traversent le chemin du Roi. La rivière qui coule sous le pont pour s'échapper sous une voûte de briques vers le moulin des Chenevières apporte un semblant de fraîcheur. Stéphanie s'arrête, quelques mètres devant le moulin.
Cette maison bizarre m'a toujours attirée, vraiment. Je ne sais pas pourquoi.
Je peux faire une suggestion ?
Demande Sérénac.
Allez-y. Vous vous souvenez, le livre que vous m'avez confié, Aurélien d'Aragon. J'ai passé une bonne partie de la nuit en sa compagnie. Aurélien et Bérénice, leur amour impossible. Dans les chapitres givernois, Bérénice réside dans un moulin.
Aragon ne précise pas lequel, mais si l'on suit à la lettre ses descriptions, cela ne peut être que celui-ci.
Vous croyez ? Vous pensez que c'est dans ce moulin qu'Aragon fait se morfondre la mélancolique Bérénice, partagée entre ses deux amours, la raison et l'absolu ?
Chut ! Ne me racontez pas la fin.
Il s'avance vers le grand portail de bois. Il est ouvert. Un léger vent court le long de la vallée. Stéphanie tremble un peu. Lorenz résiste à l'envie de la prendre dans ses bras.
Désolée pour Aragon, Stéphanie, mais pour le flic qui sommeille en moi, ce moulin est surtout la maison la plus proche du lieu de l'assassinat de Jérôme Morval.
Ça, c'est votre affaire. Mes compétences s'arrêtent à celles de guide touristique. Si vous voulez savoir, ce moulin possède une longue histoire. Sans lui, d'ailleurs, le jardin de Monet n'aurait jamais existé, ni même les nymphéas. Leur rue est en réalité un bief creusé par les moines au Moyen-Âge pour alimenter le moulin. Le rue passait un peu en amont par un champ que Monet achètera des siècles plus tard pour y creuser son étang.
Et ensuite ?
Le moulin a longtemps appartenu à John Stanton, un peintre américain qui, paraît-il, tenait mieux la raquette de tennis que les pinceaux. Mais depuis toujours, sans que l'on sache vraiment pourquoi, pour les enfants du village, le moulin des Chenevières, c'est le moulin de la sorcière.
Oh !
Regardez, Lorenz, suivez mon doigt.
Stéphanie lui prend la main. Il se laisse faire avec délice.
Observez l'immense cerisier au milieu de la cour. C'est un arbre centenaire. Le jeu des enfants de Giverny depuis des générations, c'est d'entrer dans la cour et de voler les cerises.
Mais que fait la police ?
Attendez, regardez encore. Vous voyez dans les feuilles, ces reflets brillants dans le soleil ? Ce sont des bandes de papier d'argent. De simples papiers argentés découpés en rubans. C'est tout bête. Ils servent à éloigner les oiseaux, des prédateurs pour les cerises, bien plus dangereux que les gosses du coin. Mais pour les petits garçons du village, il est un geste beaucoup plus chevaleresque que de venir dérober des fruits dans le cerisier.
Les yeux mauves de Stéphanie pétillent de fantaisie, comme ceux d'une jeune adolescente. Le plus lumineux des nymphéas de Monet. Toute mélancolie semble en avoir disparu.
Elle continue sans laisser le temps à l'inspecteur de répondre. Le chevalier doit courir voler quelques-uns de ses rubans d'argent et les offrir à la princesse de son cœur pour nouer ses cheveux. Elle rit, tout en portant la main de Lorenz jusqu'à son chignon improvisé.
Les pièces à conviction, inspecteur.
Les doigts de Lorenz Serenac se perdent dans les longs cheveux châtains. Il hésite à appuyer son geste. Il est impossible que Stéphanie ne perçoive pas son trouble. Que cherche-t-elle ? Quelle est la part d'improvisation ? Quelle est la part de préméditation ? Les papiers d'argent qui retiennent discrètement la coiffure de l'institutrice crissent sous ses doigts. Il retire sa main, comme si elle menaçait de prendre feu. Il sourit, bafouille. Il doit avoir l'air idiot.
Vous êtes une fille étonnante, Stéphanie. Vraiment. Porter des rubans d'argent dans vos cheveux, je suppose qu'il est indiscret de vous demander quel chevalier servant vous les a offerts.
Elle replace ses cheveux avec naturel. Je peux juste vous dire, pour vous rassurer, qu'il ne s'agit pas de Jérôme Morval. Ce n'est pas du tout son genre, ce romantisme de gamine. Mais n'allez pas imaginer des mystères où il n'y en a pas, inspecteur. Dans une classe, il y a beaucoup de petits garçons qui aiment offrir des cadeaux à leur maîtresse. Nous continuons ?
Ils avancent de quelques pas le long du ruisseau et parviennent juste en face du lavoir, au lieu précis où, quelques jours auparavant, le corps de Jérôme Morval gisait dans l'eau. Ils y pensent, forcément. Le silence s'insinue entre eux. Stéphanie tente une diversion.
C'est Claude Monet qui a offert ce lavoir au village. Celui-ci, comme plusieurs autres dans la commune. Il essayait par ses dons de se faire accepter par les paysans.
Serenac ne répond pas. Il s'éloigne d'un pas, s'amuse à suivre des yeux la danse des plantes aquatiques au fond du ruisseau. Sa voix claque.
« Je dois vous le dire, Stéphanie, votre mari est en train de devenir le principal suspect de cette enquête.
Pardon ?»
La fantaisie d'adolescente s'est envolée comme un oiseau effrayé.
« Je tenais juste à vous mettre au courant. Ces rumeurs entre vous et Morval, sa jalousie... »«
C'est ridicule. À quoi jouez-vous, inspecteur ?
Je vous ai déjà dit qu'entre moi et...
Je sais, mais...
De ses pieds, il fouille la boue près des berges. La pluie d'hier a effacé toute trace de pas.
Est-ce que votre mari possède des bottes, Stéphanie?
Vous posez souvent des questions aussi stupides?
Des questions de flic. Je suis désolée, mais vous ne m'avez pas répondu.
Bien entendu, Jacques possède des bottes, comme tout le monde. Il doit même les avoir aux pieds en ce moment, il chasse avec des amis.
Ce n'est pas du tout la saison de la chasse, pourtant.
La réponse de l'institutrice est sèche et précise. Le propriétaire du coteau au-dessus du sentier de l'Astragale, Patrick Delaunay, a obtenu une autorisation de destruction des lapins de Garenne en dehors des réserves de chasse et des périodes ordinaires. Les lapins pullulent sur les pelouses calcaires. Vos hommes pourront vérifier. Il y a un dossier à la direction départementale de l'agriculture, avec la liste des parcelles concernées, des dégâts provoqués par les animaux nuisibles et des chasseurs que Delaunay déclare s'adjoindre pour les destructions. En fait, tous ses amis de Giverny, dont mon mari. Tout se négocie, inspecteur. Ainsi, il mitraille toute l'année en toute légalité.
Sérénac fronce les sourcils, comme pour signifier que même s'il ne prend pas une note, il mémorise chaque détail.
Bien, merci, on vérifiera. Vous allez recevoir la visite de mon adjoint, ou d'un agent. Rassurez-vous, ils sont beaucoup moins indiscrets que moi. Stéphanie, que faisait votre mari le matin du drame?
Stéphanie s'avance vers la berge, passe une feuille de saule entre ses doigts.
C'est donc uniquement pour pouvoir m'interroger sur le lieu du crime que vous m'avez proposé de venir ici, inspecteur? Pour me mettre en condition, comme on dit?
Sérénac bredouille.
N'allez pas croire que...
Jacques était parti à la chasse ce matin-là, coupe Stéphanie.
Tôt, mais c'est souvent ainsi en cette période, lorsque le temps le permet.
Mon mari n'a pas d'alibi, vous voyez? Mais pas de mobile non plus. Le fait que Jérôme Morval m'ait fait une cour discrète n'en constitue pas un. Nous nous sommes promenés quelquefois aux alentours comme nous le faisons en ce moment. Nous discutions peinture, c'était quelqu'un d'intéressant, de cultivé. Ma relation avec Jérôme Morval s'arrête là. Vous voyez, il n'y a pas de quoi motiver un crime.
Les yeux de Stéphanie Dupin suivent l'eau du rue, puis se posent sur Lorraine Sérénac, insondable.
Tenez, inspecteur, je pourrais glisser sur cette terre mouillée, tomber dans vos bras. Quelqu'un pourrait nous apercevoir, observer, imaginer, nous photographier. C'est courant ici. Et pourtant nous sommes d'accord tous les deux, il ne se serait rien passé.
Sérénac ne peut s'empêcher de jeter un regard autour de lui. Il ne distingue que quelques passants assez éloignés dans la prairie. À part le moulin des Chenevières, il ne repère aucune autre habitation. Il bafouille sa réponse.
Excusez-moi, Stéphanie, ce n'est qu'une piste. J'ai peut-être exagéré quand j'ai employé l'expression de « principal suspect ».
Il hésite un instant à continuer.
En fait, d'après mon adjoint, l'inspecteur Benavides, et je pense qu'il a raison, il y aurait trois mobiles possibles pour expliquer l'assassinat de Jérôme Morval. La jalousie en raison de ses nombreuses maîtresses, le trafic d'œuvres d'art liées à sa passion pour la peinture, ou une sorte de secret lié à un enfant.
Stéphanie réfléchit un court instant. Sa voix prend un troublant ton ironique.
Si je vous suis, ce serait donc moi, alors, votre principale suspecte?
Les trois mobiles mènent à moi, non?
Je conversais parfois avec Morval, j'organise un concours de peinture, et qui connaît mieux que moi les enfants du village?
Elle pince ses lèvres de craie rose et tend ses deux poings fermés comme s'il n'attendait que d'être menotté.
Sérénac se force à rire.
Oh, rien ne vous accuse, au contraire. D'après ce que vous m'avez affirmé, vous n'étiez pas l'amante de Morval, vous ne peignez pas non plus et vous n'avez pas d'enfant.
Les paroles désinvoltes de l'inspecteur se figent soudain dans sa gorge. Un subit voile sombre recouvre les yeux de Stéphanie, comme si les mots de Sérénac avaient provoqué chez elle une détresse intense. La corde d'un violon qui casse.
Elle ne peut jouer à ce point la comédie, pense Sérénac. Il songe à ce qu'il vient d'affirmer.
Vous n'étiez pas l'amante de Morval, vous ne peignez pas, vous n'avez pas d'enfant.
Toute l'attitude de Stéphanie prouve qu'il s'est trompé.
qu'une de ces affirmations est fausse. Au moins une.
Laquelle ?
Cela peut-il avoir un rapport avec son enquête, avec ce meurtre ?
Une nouvelle fois, Lorraine Serenac a l'impression d'avancer dans un marécage, de s'engluer dans des détails sans lien entre eux.
Il remonte lentement vers l'école par la rue du Colombier, sans ajouter un mot. Il se sépare, troublé, sous le coup d'une gêne indicible.
Stéphanie, comme le dit la formule, je vais vous demander de rester à la disposition de la police.
Il y met un sourire. Elle y répond avec une chaleur forcée.
Bien volontiers, inspecteur.
Il n'est pas difficile de me trouver.
Je suis soit à l'école, soit chez moi, juste au-dessus de la cour.
Elle désigne du regard la lucarne ronde sous la mansarde.
Mon univers n'est pas très étendu, comme vous pouvez le constater.
Ah si, dans 3 jours, le matin, j'emmène les enfants du village visiter les jardins de Monet.
Elle s'échappe vers la classe. Le mauve clair de ses iris continue de couler longuement sur les pensées de Serenac, déformant toute la réalité de ce qu'il a entendu, la recomposant en un tableau étrange, brossé de traits de pinceau désordonnés.
Stéphanie Dupin. Quel rôle joue-t-elle dans cette affaire ?
Suspecte ? Victime ?
Cette fille le déconcerte terriblement. La seule attitude raisonnable serait de se dessaisir lui-même de cette affaire, de téléphoner au juge d'instruction, de tout confier à Silvio ou à n'importe quel autre flic. Une certitude, une seule, le retient pourtant. Cette intuition qu'il ne s'explique pas, ce sentiment lancinant que Stéphanie Dupin l'appelle au secours.